je n'ai guère besoin de présenter le professeur El Manjara, qui est une des personnalités les plus connues internationalement, non seulement du monde maghrébin et arabe en général, mais de la communauté scientifique tout court. Il a fait partie longtemps du club de Rome. Il a une œuvre abondante, importante, courageuse. Il se consacre entièrement à son œuvre scientifique maintenant en tant que professeur à l'université de Rabat. Et il a, sur les rapports Nord-Sud, évidemment, formulé un certain nombre de théories qui sont devenues bien communes et qui sont d'une extraordinaire importance dans la lente modification de la conscience collective, notamment en Europe. Alors, je suis très très heureux qu'il nous fasse l'honneur d'être ici aujourd'hui. Le sujet qu'il traite est complémentaire des suites à celui que nous avions la semaine dernière, où nous avions donc les deux collègues algériens pour nous parler de l'évolution de l'Algérie et notamment du fils. Nous avons eu un débat un peu violent parfois, les Maghrébins n'étaient pas d'accord, qu'il y avait Tariq Ramadan et d'autres qui étaient là, les Égyptiens, tout ça. Bref, je suis très très heureux de pouvoir structurer un peu cette problématique qui est, pour les Européens en tout cas, une problématique difficile à cerner. Le problème identitaire du monde arabe tel qu'il se pose aujourd'hui à travers l'expression religieuse, l'expression traditionnaliste, la renaissance islamiste, tous ces phénomènes d'une fondamentale importance historique sont frappés de la part de l'opinion publique européenne par des préjugés idéologiques, par des stratégies de confusion savamment orchestrées par les grands médias français notamment, mais dont nous sommes aussi les objets. Et donc je crois que c'est une très grande chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir écouter le professeur El Manjara. Je vous le remercie beaucoup et je vous donne tout de suite la parole.
Bon, merci monsieur le professeur, c'est à la fois un honneur et un privilège de pouvoir être invité à votre séminaire. Je ne veux pas vous envoyer des fleurs, vous n'en avez pas besoin.
Ah, mais c'est
je suis parfois en désaccord avec votre analyse, mais ce que j'apprécie, ce que j'admire le plus, c'est que l'activité intellectuelle, quand elle fait des neurones, et qu'elle n'est pas contrôlée par le sud gastrique des tripes et l'adrénaline, pour moi, elle est totalement antiseptique et ne m'intéresse pas. Je ne vais pas dire par là qu'il y a un but. On peut très bien faire de la recherche scientifique. Il faut toujours se poser un problème de finalité, qui est celui de savoir pourquoi. On est tellement dominé par le savoir-faire, comme technique, comme moyen, et on se pose de moins en moins les problèmes des finalités et du savoir pourquoi. Le sujet d'aujourd'hui bon, que j'ai pris, c'est le poids de la négociation culturelle dans les rapports Nord-Sud. Et mon approche au rapport Nord-Sud a toujours été une approche Nord-Sud. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la problématique que j'analyse, je ne me limite pas à la problématique du Sud. Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas ce qui est en train d'arriver aux sociétés du Sud, ni ce qui est en train d'arriver aux sociétés du Nord. Ce qui m'intéresse, c'est les points d'intersection, où les développements du Nord et ceux du Sud aboutissent à une problématique. Et donc, je me donne autant le droit de juger, d'analyser les développements du Nord que certains spécialistes du problème du Sud s'arrogent, mais en se limitant qu'à analyser le Sud comme un produit extérieur qui vit en vase-clos. Et donc, je ne vais pas vous parler du Sud, je ne vais pas vous parler du Nord. Je vais vous parler des points d'intersection qui intéresse la globalité de l'humanité, et ma démarche a toujours été ainsi motivée. C'est pas pour rien que j'ai passé 17 ans à l'UNESCO, chargé notamment des problèmes de la culture sur le plan mondial. Et mon analyse, même en tant qu'économiste, part et accorde un poids énorme à la culture. Je ne suis pas un anthropologue, mais dans l'analyse économique, dans l'analyse politique, et surtout en prospective, comme plus de 20 ans de ma vie est consacré à la prospective, le paramètre culturel est peut-être la clé de base. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre. J'étais invité une fois par Shell International, il y a à peu près une dizaine d'années, et qui sont les plus avancés dans les techniques de planification. Et ce sont les premiers qui ont mené des études sur l'an 2000, les années 50. Et puis, après les événements d'Iran, sont passés à un système totalement différent de planification, qui est basé sur ce qu'ils appellent le socio-cultural risk factor. Et pour leur investissement au Nigeria, au Gabon ou ailleurs, ils étaient beaucoup plus intéressés par des paramètres, comment les gens s'habillaient, ce qui retournait à la nature locale, etc., sachant que ces éléments et ces paramètres étaient annonciateurs de développement qui allait se passer 5-10 ans plus tard. Et je trouvais ça vraiment très intelligent. Évidemment, les multinationales devancent toujours, même sur le niveau intellectuel, les problématiques et les techniques d'analyse. Donc je vais parler du poids de ces facteurs socioculturels, et des valeurs socioculturelles, mais pour vous donner une idée de la conception dynamique que j'ai des systèmes de valeurs et pour comprendre leur poids dans un système impératif qui est le système international, ce n'est pas une photographie, ce n'est pas une analyse ethnographique, ce n'est pas le travail des orientalistes, ce n'est pas le travail de certains sociologues du développement en Amérique ou ailleurs qui vous observent comme dans un laboratoire. Moi, le développement est beaucoup plus complexe et j'analyse dans le laboratoire le scandinave, le suédois et le russe ou le japonais autant que si lui veut m'analyser dans mon laboratoire. Mais je ne lui donne aucun pouvoir de s'arroger le droit, lui, de me juger en restant en dehors et en faisant abstraction de ce qu'il est, parce que déjà ses valeurs faussent l'analyse en elle-même parce qu'il part d'un référentiel. Peu de gens arrivent à s'en libérer et à voir. Et c'est devenu le développement en particulier, qui est devenu une très grosse affaire, notamment grâce à l'assistance technique et toutes les années 60-70, où le development est devenu vraiment business pour des gens qui en vivent, notamment certains experts dans le système des Nations Unies, dont je suis, et que j'ai quitté en 76 quand je savais que le système était devenu un système du maintien du statu quo et surtout un véhicule d'un système de valeurs déterminées que j'appelle du monde occidental et que j'appelle judéo-chrétienne, avec tout le respect qu'un musulman a la chance d'avoir à l'égard de ces deux religions qu'il intègre comme sienne. L'inverse n'est pas possible, c'est la chronologie qui le fait. Mais pour commencer dans cette détermination, cet aspect à la perspective, laissez-moi citer deux penseurs. Un qui a déjà écrit il y a plus de 600 ans les phrases suivantes. Il y a 600 ans. Tous les pays changent d'aspect. L'univers est soumis à un bouleversement complet. Il va changer de nature afin de subir une nouvelle création. Ibn Khaldoun, qui a vécu en 1332 et 1406. Quelques siècles plus tard, Montesquieu, la Révolution française. L'individu recherche une époque tout agréable où il soit le plus libre et le plus aidé. Il la trouve vers le commencement de la fin d'un système social. Alors, entre l'ordre et le désordre, règne un moment délicieux. Et cette citation est extraordinaire, parce que vous savez peut-être que la révolution la plus importante en sciences, qui malheureusement n'a pas atteint les sciences sociales, parce que les sciences sociales ont toujours un retard énorme. Il faut être un Ruffier ou être un Michel Serres pour comprendre cela, ne fût-ce que dans son dernier article, Michel Serres, qui est un homme que je respecte énormément, et qui dit à mes contemporains, ses hémiplégiques. Et les hémiplégiques sont les gens des sciences sociales, parce qu'ils fonctionnent au niveau des sciences sociales et des sciences humaines, et ils sont totalement inconscients de ces bouleversements qui se passent dans le monde de la science ou de la technologie. Si vous prenez n'importe quel sociologue ou économiste ou philosophe, et lui dites, hé, le monde est complètement changé depuis 13 jours. Il y a 13 jours, on a pu prouver la théorie du Big Bang, et à 50 000 milliards de kilomètres, on a trouvé les traces ou le tracé de la théorie qui confirme le Big Bang et qui est là. Quelles sont les implications pour vous en ce qui concerne votre attitude dans les sciences sociales? Vous direz, mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec quelque chose qui, d'abord, le Big Bang a commencé il y a 3 millions d'années-lumière, et puis qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, de ce qui se passe là? Et c'est là où, alors, quand les gens se coupent de le contexte dans lequel ils analysent, c'est plus pour moi un problème de la planète. Vous savez, on est passé par une période de ce qu'on était l'anthropomorphisme. L'homme réalisait tout à lui-même, la nature était à son service. Personne comme Prigogine a bien décrit ça dans La Nouvelle Alliance, même si c'est un livre qui avait affaire avec la deuxième loi de la thermodynamique. Il fallait que l'homme domestique cette nature, qu'il la contrôle. Il était venu là. Il a un rôle spécial et ne s'est pas du tout vu comme élément d'une composante qu'il était la planète. Aujourd'hui, même certains mouvements écologistes pêchent par ce que j'appelle un planétomorphisme, c'est-à-dire le monde commence et se termine avec la planète, alors que la planète est un tout petit bout et qu'on ne peut comprendre ce qui se passe, même du point de vue écologique, que si on peut l'insérer dans tous les nouveaux développements qui se passent sur les univers. Pourquoi je parle de ça? Parce que la théorie la plus importante qui nous vient de la physique des quanta et des particules, qui a été déclenchée par le débat entre Heisenberg et Einstein sur la compréhension du monde est la suivante. C'est que grâce à la physique des particules et les sciences de pointe, on a enterré deux grosses têtes. La première est Newton, qui a contribué par rapport à son temps à la physique, mais qui a apporté un concept d'un monde mécanique qui est comme une horloge où tout est réglé, puis c'est tic-tac, ça tourne comme une montre suisse, ou aujourd'hui on dirait comme une montre japonaise, mais qui avait réduit le monde à un modèle mécanique. Et ce modèle mécanique a été transposé, bien sûr, au niveau des sciences sociales et des sciences humaines, et les gens commençaient à essayer de trouver des lois. Si vous voulez, c'est là où on faisait les analyses pour le développement, et on disait qu'il y a des sciences nomothétiques. Alors, une science nomothétique, c'est tout le débat sur les sciences sociales, les sciences humaines, c'est des sciences dans lesquelles on peut évoluer des lois. Et alors, il y avait le problème, est-ce que le droit est une science nomothétique? Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, le droit étant une science où on traite des normes, n'est pas une science nomothétique parce qu'il n'y a pas des lois qui régimentent le droit comme étude et comme discipline. Tandis qu'en anthropologie, en économie, on essaie de développer des théories. Et vous pouvez dire, qu'est-ce que c'est que ce charabien? Mais ce charabien, c'est que les grandes révolutions à partir de la physique des quantas, certains développements dans biogénétique, ont fait que la théorie la plus admise aujourd'hui qui explique l'univers, qui l'explique, c'est ce qu'on appelle la chaos critique ou la théorie du chaos, qui vient d'une probabilistique qui est la base de l'analyse dans la physique quantique. Au point où les domaines les plus développés aujourd'hui dans des universités comme Harvard, comme Caltech, comme je ne sais pas, MIT ailleurs, c'est tout un secteur qui s'appelle la chaotique. Et cette chaotique vous explique que contrairement à ce qu'on a toujours pensé grâce à Newton et à cette vision mécanique arrêtée du monde, dans l'espace, dans l'univers, appelez-le ce que vous voulez, l'ordre n'est pas un état permanent. La nature est beaucoup plus, l'univers, ça c'est si vous voulez arriver à des calculs exacts. Si vous voulez savoir exactement, pouvoir mesurer à cette distance que j'ai dit, des variations de température qui étaient de l'ordre de 0,0023 degrés, pour se rendre compte qu'on avait affaire à une matière qui était semblable à celle qui est partie d'ici il y a des milliards et des milliards d'années. Alors, cette notion de chaotique, c'est que le désordre est un état, c'est-à-dire il y a un état instable, et que l'ordre est une phase entre un ordre, un désordre et un autre ordre. Mais c'est elle qui donne le sens. Si vous voulez notre comparaison, un grand musicologue et philosophe et médecin arabe a fait Farabi dans le premier traité de musicologie, c'est que dans son langage de la musique, il appelait le silence entre les deux notes de concentration. Alors pourquoi? Parce que c'est dans celui qui sait écouter la musique n'écoute pas les notes. Il écoute le silence entre les deux notes qui est la clé pour comprendre le rapport entre les deux notes et qui constitue la musique. Ben, c'est la même chose dans la théorie aujourd'hui qu'il y a au niveau de l'univers, c'est qu'il y a cette notion d'ordre, de désordre, mais que l'ordre n'est qu'un instant, quand on passe d'un état de désordre à un autre. Et ceci est très important quand on veut analyser des systèmes. On a ensuite été prisonnier par tout un développement de la systémique, moi-même j'ai passé des années, j'ai écrit un de mes livres qui est utilisé comme vraiment textbook aux États-Unis et en Angleterre, The United Nations System Analysis, où j'ai appliqué la théorie de l'analyse des systèmes pour comprendre les sous-systèmes, le système des Nations Unies, le système de développement, paix et sécurité, mais on devient prisonnier de certains concepts, ce qu'on appelle en sciences sociales la réification. La réification, c'est qu'à force de formuler, à force de conceptualiser, on se met dans un cocon et on est prisonnier d'un cocon qu'on tisse et on tisse, et on finit par croire que les règles et les lois qu'on a élaborées sont réelles, et on se met à le croire. C'est comme un menteur qui, à force de mentir, est convaincu de ce qu'il dit. Et de bonne foi. Alors, la rééducation, c'est ce qui s'appelle, au niveau des sciences sociales, c'est connu. Et donc, quand je parle des valeurs, pour moi, c'est cette importance. Il y a le problème nord-sud est aussi important à mes yeux que les rapports entre les disciplines, les sciences sociales et exactes, et les sciences. Bon, j'ai eu la chance d'avoir fait d'abord une licence de biologie et de chimie, ça m'a jamais quitté avant de faire d'autres choses. Mais je crois que c'est pour que vous compreniez pourquoi j'attache de la valeur au système culturel, parce que je dis toujours que le système des valeurs en le rôle des enzymes dans le développement biologique, dans la chimie. C'est-à-dire, les valeurs sont la clé principale qui vous donne un algorithme et qui vous donne la possibilité de comprendre un système. Et, pour passer tout de suite au sujet, dès mai 70, à Rome, la Société internationale pour le développement a tenu la vraiment première grande rencontre, ce qu'on appelait la table ronde nord-sud, qui s'est tenu avec le président de la République et tout le tralala, et les gens de partout qui discutaient, le débat nord-sud. C'était bon, quelques années après la résolution sur le nouvel ordre économique, c'était un peu de temps après que la France ait fait la suggestion d'avoir la conférence internationale sur la coopération, ainsi de suite. Et là, j'avais présenté un papier qui s'appelait The Cultural Dimension, The First Facet of the Political Relation Nord-Sud. C'est-à-dire que pour moi, l'aspect le plus politique dans les rapports Nord-Sud était un problème culturel. Et déjà en 78, à Chradi, je dis, on doit accorder une priorité au système de valeurs afin de pouvoir démontrer que la crise nord-sud ne peut pas être surmontée, même par adaptation. C'est une crise du système international en tant que tel, et les solutions appellent nécessairement une redistribution de pouvoir, de ressources, et d'après des systèmes de valeurs différents de ce système qui est à la base de la crise elle-même, et du breakdown et de la déconfiture et du système actuel. Et déjà, depuis ce moment-là, j'ai compris, peut-être que le passage j'avais à l'UNESCO ou autre chose, et je disais, le problème de la communication culturelle est déjà devenu d'une importance stratégique dans les relations internationales pour plusieurs raisons. D'abord, une raison globale, c'est que nous vivons depuis à peu près 10 ans, la société humaine est en train de passer, de vivre une période de transition, de ce qu'on appelle une société de production, basée sur la production, basée sur la notion de la révolution industrielle, basée sur des concepts de développement que vous devez passer d'abord par l'industrialisation. Vous avez un premier stade de développement, puis un deuxième stade qui est votre capacité d'absorber le capital, que vous avez à transférer les technologies, après vous vous développez. Bon, ces notions-là sont non seulement complètement dépassées, mais elles sont contraires à la manière dont les sociétés et les individus évoluent. Et aujourd'hui, surtout, où nous passons à cette société du savoir au lieu des sociétés de production, c'est que les matières premières n'ont plus aucune importance, totalement secondaire. Vous avez qu'à voir, si vous étudiez sur les 10-15 dernières années, tous les rapports qui sortent, la baisse moyenne, tenant compte des facteurs de dévaluation de toutes les matières premières, est aux alentours entre 20 et 25% année après année. Il est possible qu'une année le coton monte ou le café, mais dans la moyenne globale des indicateurs, ce n'est pas mes chiffres, c'est ceux de la CNUSED et d'autres. Alors, dans ces sociétés du savoir, la clé n'est plus dans les matériels modernes. D'abord dans l'information, prise dans son sens réel du terme, c'est-à-dire la connaissance, le savoir, et elle est dans les ressources humaines, elle est dans la matière grise. Et donc, nous rentrons une période que nous économistes, en appelons maintenant la période de l'immatérialisation de l'économie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immatérialisation de l'économie? Là, j'ai un petit ordinateur qui m'aide. Bon, il a 120 mégas, il fait 2 kilobits et il a une puissance de calcul de 35 mégas. C'est pourquoi je vous donne ces chiffres. Si vous allez à MIT et vous allez visiter le musée de MIT, où vous trouverez le premier grand ordinateur qui a servi pour les calculs qui ont contribué à mettre au point la bombe atomique, eh ben, c'est un ordinateur qui occupe, je dirais, un minimum de 3 fois cette salle et qui est fait avec des grosses langues et qui pèse plusieurs tonnes. Ben, cette petite machine de 2,7 kg a une capacité, une puissance de traitement qui est entre 150 et 200 fois supérieure à celle qui était avant. Alors, en quoi est l'immatérialisation? Cet ordinateur d'il y a à peu près une cinquantaine d'années était entièrement fait de matériaux venant de matières premières. C'est-à-dire qu'il y avait de grosses lampes qui étaient faites avec du verre, le verre est fait avec du sable, il y avait du tungstène qui est une matière qu'on trouve sous terre, qu'il y avait de l'acier, il y avait du bois, il y avait tout ça. Et bien cette petite machine-là n'a rien qui sort de la terre. Elle est entièrement faite de matières synthétiques qui sort des laboratoires, depuis l'écran à ces matériaux qui sont des matériaux de synthèse et qui sortent entièrement des laboratoires. Alors, regardez le rapport, que ce soit au niveau du poids ou au niveau des matériaux qui le servent, et ça vous donne une idée de ce qu'on appelle l'immatérialisation de l'économie. Un autre exemple qui est plus frappant, c'est celui du téléphone des communications. Si vous aviez avant, ça existait encore en Suisse, ce quartier, disons, s'il y a 10 000 lignes téléphoniques à raccorder, ça demande quelque chose facilement entre 10, 15, 20, 30 tonnes de cuivre pour les fils. Et bien sûr, ça aide tout le Copper Belt en Afrique ou des pays comme la Bolivie ou la Colombie qui produisent le cuivre. Et bien aujourd'hui, pour cette même fonction, quelques kilos de fibres optiques qui eux aussi sortent entièrement des laboratoires de synthèse suffisent. Donc, de plus en plus, quand on dit immatérialisation de l'économie, c'est-à-dire que l'aspect matériel, physique, des ressources naturelles, de ce qui est palpable, diminue, mais il est remplacé par quoi? Il est remplacé par une valeur ajoutée qui est celle de la matière grise et qui est surtout celle de l'innovation, comme les Japonais l'ont très bien compris. Et quand vous rentrez dans ces conditions-là, à nouveau, les systèmes de valeurs socioculturelles sont la clé. Parce que c'est au niveau des structures mentales, au niveau des méthodes d'apprentissage, au niveau de la compréhension et de l'appréhension de la connaissance et dans le monde que vous vivez que ces transformations se font là. Et les gens ont compris les ressources humaines. Vous savez, quand on est allé en Irak sur le plan nucléaire, et j'étais choqué comme ancien fonctionnaire international pour lequel c'était un sacerdoce, où on jure de ne faire rapport qu'au secrétariat international, de ne pas recevoir d'instructions des gouvernements. Quand j'ai un petit sous-fils qui s'appelle Kay, qui était à l'UNESCO comme un P4, qui a fait des études de troisième classe de relations internationales à Columbia, et qui du jour au lendemain s'est présenté comme l'expert en énergie atomique, qui dirigeait l'équipe des Nations Unies, ont mis la main sur les dossiers. La première des choses qu'il a fait à partir d'un téléphone cellulaire relié à l'espace, c'est de transmettre d'abord la liste de 4000 ou 5000 de spécialistes irakiens. Et ça ne s'est pas arrêté là. À ce moment-là, le pauvre Pérez de Cuellar, qui est la plus grande honte que l'histoire des Nations Unies a vue, jusqu'à l'arrivée de Boutros Ghali, qui est 10 fois supérieur et pire, à ce moment-là, au lieu de dire que c'était sur le plan de l'éthique, la fonction publique internationale, le secrétaire général a dit oui, effectivement, c'était une erreur et c'est passé, que vous ne l'avez pas, les Américains régimentent le monde. Mais l'essentiel après ça, c'était pire. Et vous aviez une déclaration, elle était dans la première page du Herald Tribune, qui disait, vous savez, le problème maintenant en Irak, c'est pas ça. On a beau détruire tout ce qu'ils ont. On a beau détruire comme on a vu sauter. Le problème, c'est qu'ils ont des cerveaux qui sont capables de recommencer ça à le faire. Et ça voudrait dire que cette liste qui est partie, comme on a déjà assassiné entre 100 et 120 grands spécialistes du tiers-monde, notamment dans le nucléaire, que ce soit des Pakistanais, que ce soit des Iraniens, que ce soit des Indiens, que ce soit des Brésiliens, des Argentins, et bien ça, cette liste, elle est très précieuse. Ce n'est pas les bunkers que vous avez vu sauter, ce n'est pas le transfert de matériaux qui sont venus dans le transfert technologique, mais c'est que l'Irak, et là je défends pas le système, avait prouvé que la notion et le mythe du transfert technologique n'existaient pas et qu'on était capable de prendre une technologie et de la faire évoluer soi-même. Et ça, on ne vous le pardonne pas, parce que vos dépendances à ce moment-là, si vous arrivez à démontrer un exemple de disconnexion, si vous voulez, de delinking, sur le plan de la science et de votre dépendance, vous l'avez dans vos ressources humaines et dans vos cerveaux, et que vous dépensez, comme l'Irak l'a fait, plus de 3% pour la recherche scientifique, même si c'était pour le militaire. Il n'y a pas de leçon à donner à l'Irak, je suis un pacifiste, je n'ai pas mis les pieds en Irak depuis 1955, j'ai pris des positions extrêmes, le problème n'est pas ça. Le problème, c'est l'importance de la science et de la technologie comme facteur de développement. On dirait que c'est le militaire, mais dans le mouvement Pagouache, on sait que près de 70% des dépenses mondiales en recherche scientifique sont des dépenses dans le cadre militaire. Dans Pagouache, nous savons que 2 scientifiques sur 3 dans le monde travaillent pour la destruction et pour le genre de barbarie technologique que vous avez vu, qu'on appelle Star Wars, et on arrive comme ça à tuer des centaines de milliers de personnes et avoir un génocide qui fait plaisir aux gens parce qu'ils voient un feu d'artifice dans le ciel de Bagdad et ils vous disent c'est like the 4th of August, ou bien en France on vous dit c'est vraiment une nuit de 14 juillet, regardez-moi ce beau ciel qui éclate. Avec une satisfaction et un plaisir vicieux, cynique à l'intérieur, les gens ne peuvent pas tenir compte de ces réactions-là. Et c'est lié à la science et c'est lié aux valeurs socioculturelles, où on a un spectacle devant soi, devant cet écran, où on est pris et on attend quand est-ce que le prochain truc va passer, quand est-ce qu'on va voir ces bombardiers, quand est-ce qu'on va voir quelqu'un dire à travers la cabine « I hate the bastard », je fais ça, et les gens sont fiers. C'est ça le système de valeurs. Dans leur salle de télévision avec leur pain chips ou leur bière ou leur Coca-Cola, ils sautent par leur siège, c'est pas beau, ça regarde, il l'a eu, là il va le rater. Très bien, c'est comme les nouveaux jeux. Et ça c'est culturel, je ne dis pas en m'amusant. Donc, ce facteur du transfert d'une société de production à une société de savoir pose des problèmes au nord et au sud. Le nord est sous-développé. Quand Michel Serre parle des idées de l'Égypte, c'est de ça qu'il parle. C'est que nous avons atteint dans cette société de communication une explosion de la connaissance Nobel, qui est un prix Nobel de physique français, a estimé que nous avons atteint un stade où la connaissance totale de l'humanité double tous les 8 ans. C'est pas Madeleine Mangin qui vous le dit, c'est Pell, un prix Nobel de physique. Il a fait sa calcul à sa manière. Imaginez qu'on considère que l'histoire culturelle de l'humanité est à peu près 10 000 ans si on tient compte des hiéroglyphes, de ce qu'on a trouvé, les premières armes en pierre, les premiers trucs en métal, les fléchettes, et que ce que l'humanité en fait en 10 000 ans, ben, le faire en 8. Si je vous donnais les statistiques, il y a plus de 60 millions d'articles qui sont publiés scientifiquement par an. Depuis que j'ai commencé de vous parler, il y a déjà 5, 20, 30, 35, il y a près de 40 articles scientifiques qui ont été publiés dans le monde. Il y a 400 000 mots qui s'ajoutent dans le langage scientifique chaque année, alors que le grand dictionnaire de la langue française se limite à 40, 45 000 mots de base, puisque l'Académie française met 3 ans pour en approuver 10. Non, mais c'est des faits. Donc vous avez un décalage, ce qu'on appelle un phénomène de dérégulation entre la vitesse à laquelle l'être humain produit cette science, cette technologie. Et les siennes, elles ne viennent pas d'extraterrestres. C'est le produit de l'intelligence, de la créativité, de l'innovation humaine. Et en même temps, cette même société a un rythme de digestion, d'adaptation, de compréhension de cette technologie qui suit notre voisin. Si vous voulez, je peux vous donner une... C'est ce qu'on appelait dans le rapport que j'ai fait au Club de Rome, on finit pas d'apprendre, des human gap. Le fossé humain, c'est quoi? C'est que la connaissance suit une progression géométrique et la capacité d'apprentissage de la société et la digestion de ces développements scientifiques et technologiques suit une évolution linéaire. Alors, si vous avez fait, vous êtes arrivé en première année du secondaire en mathématiques, et vous comprenez tout de suite qu'entre la progression linéaire et la progression géométrique, vous avez une courbe qui fait ça. Et cette courbe ne fait que grandir et c'est un fossé humain. Et elle est supérieure au fossé entre le nord et le sud, et elle est supérieure au fossé à l'intérieur du nord et à l'intérieur du sud dans nos sociétés. Et c'est un problème de crise réelle qui concerne la survie de l'être humain. Là, je me balance du concept nord et sud, parce que si l'être humain ne survit pas dans sa totalité, qu'est-ce que j'ai à faire du nord ou du sud? Je n'en ai rien à faire, c'est une vision qu'on peut m'imposer, je suis un être humain, et je me sens tant chez moi, à Timbuktu, qu'à Tokyo, qu'à Stockholm, même si les gens ne m'acceptent pas, moi je m'accepte, je m'approprie cette terre dans laquelle je suis né, dans la planète. Alors, ces données-là, un autre élément, c'est que la révolution de la communication, c'est une des causes de ces transferts. Et je suis vraiment tellement touché par cet article de Michel Serres, pour lequel j'ai un job extraordinaire, de cette hémiplégie où on est. Et si je vous dis, peut-être certains d'entre vous le savent, que avant la fin de l'année, au début de l'année 93, vous voyez ça. Imaginez que ça a 5 cm de plus et que c'est une histoire en silicone. Avant la fin 93, 90 millions de volumes de la librairie, de la bibliothèque du Congrès seront là. Vous pouvez les transporter dans votre poche. 90 millions de volumes. Je peux vous donner les références statistiques. Je m'amuse avec tout. Je suis un professeur depuis plus de 30 ans. Je ne joue pas avec les chiffres. Parce que si jamais on me trouve avec un chiffre pour une référence poste, tout ce que j'ai fait dans ma vie, pour moi, est parti. Mais bien plus, avant 95, la vitesse de la transformation de l'information fera que les 90 millions de volumes de la bibliothèque du Congrès pourront être transmis à n'importe quel autre moderne qui a la capacité de les recevoir en 10 minutes. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, je ne veux pas faire de la science-fiction, ça c'est des réalités. On vient de mettre au point un Intel, un ordinateur qui fait 8,6 milliards d'opérations secondes. Avant la fin de l'année, on arrivera à 10 milliards de secondes. Et on estime qu'avant la fin du siècle, on arrivera à plus de ce qu'on appelle un triard d'opérations secondes. Et là se pose un problème. Le président des États-Unis, je crois que c'était le dernier l'année de Reagan, a nommé une commission qui était composée, je crois, de 20 ou 24, j'oublie, présidents d'universités américaines prestigieuses, depuis Harvard, MIT, Carnegie Mellon, Princeton, je ne sais pas quoi, qui pendant un an ont travaillé sur la crise du développement technologique. Eh bien, ça va vous étonner, c'était la conclusion de ce rapport, qui est un genre de white paper qui a été publié, que vous pouvez commander par l'ambassade des États-Unis ou n'importe où, c'est un document du Congrès américain. Eh bien, leur conclusion, c'est que c'est très bien. Nous nous développons en informatique et en robotique, et nous sommes très avancés sur les plans de l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de mettre au pied ce qu'on a sur pied des systèmes experts, mais il y a un blocage. Le blocage, c'est que le développement rapide de ces technologies doit pouvoir concevoir des systèmes logiques à la hauteur de la vitesse du traitement de l'information. Et la conclusion, c'est-à-dire l'argument, c'est que la manière dont maintenant l'information est traitée, quand vous passez à des milliards d'opérations secondes, quand vous avez des quantités énormes d'informations, quand vous faites un système expert qui, par exemple, va conduire votre propre voiture d'un autre à un autre, il y a tellement de paramètres à prendre en considération qu'il faut concevoir ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire traduire par une série d'opérations logiques ce que vous voulez qu'il fasse. Et là, la grande faiblesse du système actuel, c'est le manque de logiciens et bien plus d'avoir l'imagination et les envies dont ce grand besoin est le besoin de philosophes et de logiciens qui puissent compenser à quoi utiliser tous ces technologies. Et ça, c'est un rapport. Donc, j'essaie de montrer, en mettant l'accent sur cet aspect des valeurs socioculturelles, je ne suis pas là pour défendre le système zen de manger, ou le système bouddhiste de faire l'amour, ou le système inca de prier les dieux. Ce n'est pas ça. Quoique ma position principale est que cette diversité des cultures, à l'intérieur des pays, entre les pays, est vraiment la chose la plus importante, comme les écologistes essayent de développer, de maintenir le nombre d'espèces, d'oiseaux, d'insectes, de plantes, de types de pommes de terre, et ainsi de suite. Et cette diversité est une richesse. Donc, nous avons maintenant, ce que je veux sortir, c'est que l'évolution de la science et de la technologie est en train de provoquer une nécessité de repenser le système d'éducation et d'information. Je vous prends un autre récent, il y a, je crois, 5-6 jours, d'Angela, un homme des plus remarquables pour moi, c'est le professeur Imberger, écrivait dans Le Monde, c'est le 16 avril, hein, il n'y a pas longtemps. Alors, il parle des développements, comme moi je vous parle sur l'informatique, en disant, regardez, moi je parlais de l'explosion de l'information, et voilà, la révolution thérapeutique, Imberger, page 2 du Monde, la page 2, vous dit, comment décrire l'explosion des pouvoirs des thérapeutiques? En 30 ans, plus de 100 médicaments et techniques nouvelles ont été mis à la disposition du praticien. Et puis il arrive à une conclusion et dit, la médecine ne peut plus être ce qu'elle était. Quel que soit notre attachement aux formes traditionnelles de l'action médicale, les événements nous contraignent aujourd'hui à revoir les règles du jeu. La révolution thérapeutique doit obligatoirement engendrer une révolution dans l'organisation de la médecine, dans l'enseignement de la médecine et dans l'esprit même de son expertise. Et dans cette conclusion d'un grand spécialiste, d'un grand humaniste au niveau de la médecine, vous pouvez l'appliquer tout. Vous pouvez l'appliquer à ce qu'on est en train de faire dans ce séminaire. Vous pouvez l'appliquer à ce qui se passe n'importe où, où il y a un learning process, où il y a un processus d'apprentissage. Et une des conséquences de la révolution actuelle, quand on passe d'une société du savoir à une société de production à une société du savoir, elle est très simple, si vous voulez la résumer d'une manière, en un mot. Dans une société de production, c'est le produit qui compte. It's the product. Dans une société du savoir, le product est totalement secondaire. What counts is the process. C'est une différence énorme. Parce que si vous intéressez qu'au produit, parce qu'il y a une commercialisation, c'est une chose. Mais l'intéressant, c'est le processus à travers lequel vous arrivez au produit, parce que vous pouvez constamment améliorer ce processus par l'innovation, par la transformation, par le plus-value. Et si vous vous intéressez qu'au produit, vous êtes prisonnier de ce produit, et au contraire, vous allez vouloir le garder sur le marché le plus long possible pour l'amortir. Et donc, cette transposition au niveau de l'esprit, de passer d'une société qui est basée, si vous voulez, sur la production, à une société basée sur le savoir, c'est ça. Bon, tout le monde va dire, ben, vous ne parlez plus longtemps, où arrive la question du Nord et du Sud. Bon, il y a une chose, ça, je ne sais pas à combien d'années, c'est que notre notion même des instituts. Vous savez, parler de la démocratie aujourd'hui, parler des nations d'État, parler des droits de l'homme, je suis président fondateur d'une organisation des droits de l'homme, là aussi le même phénomène s'applique. J'ai une admiration extrême pour Voltaire et Montesquieu et Robespierre, comme pour Newton qui dans son temps était extraordinaire et que maintenant on a enterré Newton, le deuxième qu'on a enterré c'est Descartes. Parce qu'il y a une limite à la rationalité, et c'est pas moi qui le dis, voilà un livre qui était fureur en France, qui est écrit que par des scientifiques, exact et naturel, si vous ne l'avez pas lu, faut-il brûler Descartes. parce qu'on arrive à un point par rapport à la quand il a introduit la méthode Descartes à sa période, mais c'était une révolution. Mais sortez Descartes de sa tombe, ramenez-le aujourd'hui avec le niveau de la connaissance qu'on a, avec les théories là, et vous verrez ce que ferait un Descartes. Et vous verrez ce que ferait un Descartes. Il a commencé à remettre en cause notre théorie, il dit, mais monsieur, vous en êtes encore là? Moi, je disposais d'un tout petit peu de connaissances comme ça et j'ai produit ça. Et vous, dans cet espace, ça a doublé et doublé, et vous accrochez encore à moi sans comprendre qu'il y a d'autres phénomènes qui se passent. C'est dans cet esprit-là que je parle des nouveaux problèmes que pose l'évolution de la science. Alors, quand je prends la notion des états, qui a amélioré les conditions de la vie, c'est vrai, mais ces institutions sont devenues obsolètes avec les nouveaux systèmes de communication, avec l'importance des réseaux informels d'une solidarité humaine qui existe, qui est informelle, qui se développe, qui est volontariste, et également le fait que les gouvernements, bon, je vais vous donner des chiffres, je vais me donner encore 10 minutes, un quart d'heure, je vais profiter du débat, mais on a estimé, grosso modo, que les pouvoirs des États, ce qu'on appelle les pouvoirs, c'est-à-dire ce qu'on appelle the rate of control regulated transactions. Alors ça, dans le jargon anglo-saxon, c'est-à-dire on a des paramètres de mesurer, si vous étiez président de la République en France ou en Italie, disons en 1924-26, même jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, et vous voyez les transactions entre la France et d'autres pays. Alors, que ce soit le commerce international, que ce soit le voyage, que ce soit la politique, que ce soit l'économie, etc. Et on voyait combien de ces transactions, y compris les voyages, les touristes, étaient réglementées, ou comme on dit dans l'analyse systémique, régulées, regulated, par l'État. C'est à peu près 80-85%. Et je ne parle pas dans les pays de l'Est ou les pays communistes à ce moment-là. L'État, en principe, avait un contrôle à travers des normes et des régulations qui faisaient que pour une raison ou une autre, 80-80% des transactions passent et 15% étaient en dehors. Aujourd'hui, la proportion est inversée. Il n'y a pas un État, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou même la Russie ou n'importe qui contrôle réellement, et quand je dis contrôle, c'est-à-dire qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, qui est à l'ordre du jour du gouvernement, prenez la démocratie, prenez le bulletin officiel de la France, prenez le Congressional Record, prenez le Journal de House of Commons, et dites-moi par rapport à ces mutations scientifiques que vous parlez, combien de débats ont été consacrés à une politique scientifique ou stratégique. En France, on l'a fait, chaque fois qu'il y a un problème, on sait est-ce que Bull va faire faillite, et comment on va sauver Bull et les 150 000 emplois. Alors, est-ce qu'on fait un accord avec IBM, est-ce qu'on le fait avec Hewlett Packard, ou est-ce qu'on le fait avec Digital? C'est des raisonnements à chaud, learning by shock, qu'il faut que l'accident se produise, et là on arrive, au lieu de faire une thérapeutique et une anticipation, et de prévoir le choc, une fois le choc fait, ben, on intervient en salle d'urgence pour trouver une solution. C'est pas comme ça que les idées évoluent. Et je pouvais trouver par là que même dans les démocraties, l'emprise de la personne pour laquelle vous votez dans l'urne et il va s'asseoir là, il n'a pas l'emprise sur 10-15% de ce qui se passe réellement, et même s'il voulait l'avoir, il est incompétent, il est scientifiquement illettré. À un moment donné, dans les démocraties, on a demandé que les gens soient lettrés pour pouvoir représenter la population. Comme chez nous, un halle doit lettrer, moi je l'ai dit au Maroc, je l'ai dit ailleurs, j'ai dit je refuse d'accepter un halle qui n'a pas un niveau du bachot en biologie, en sciences et en technologie, parce qu'avant, les halles d'avant, eux étaient à la fois des médecins, des philosophes et autre chose. Comment voulez-vous qu'ils m'interprètent les phénomènes d'aujourd'hui s'il n'est pas à la page sur le plan scientifique pour comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent? Halle, c'est un savant. La fonction sociale, c'est, si vous voulez, c'est un docteur. C'est un docteur.
Mais qui a un pouvoir de contrainte.
Et il n'a pas un pouvoir de contrainte parce qu'en islam, véritablement, il n'y a pas un intermédiaire entre Dieu et la personne. On n'a pas de clergé. Mais il y a des personnes, comme des sages, qui, eux, pensent et réfléchissent à ces problèmes par ce qu'on appelle un ijtihad, une recherche, lequel doit tenir compte de Qiyas, qui est l'analogie, et qui doit surtout tenir compte de Ijbar, qui est le consensus. C'est-à-dire que pour apporter des transformations, c'est comme un collège, si vous voulez, et disons c'est un deuxième état ou un deuxième collège, comme un Sénat, dans cette structure, et qui tient compte de certains développements et sort avec des fétoires, c'est-à-dire des formes d'explications, d'ordonnances, qui exprime la nécessité ou justifie quelque chose. Le meilleur exemple a été quand on a commencé les banques dans les années 20, dans certains pays, on a dit, bon, l'islam est contre l'usure, donc on peut en avoir les intérêts. Bon, il a fallu 20, 30 ans de recherche où les gens ont justifié cela, disant, non, dans l'islam, quand on dit qu'il n'y a pas d'usure, c'est parce que l'usure, c'est 40 et 50 et 60%. Et si on ne fait pas des banques où il y a 5 ou 6%, et bien c'est comme ça que vous avez contribué à l'augmentation de l'usure. Donc, dans l'intérêt de l'islam, pour limiter l'usure, autoriser les banques. Et c'est comme ça que la banque continue à commencer. Quand l'islam était une force dynamique qui essaie, donc le changement est toujours possible. Il n'est pas dans le Coran.
C'est pas une instance, c'est aussi à vous, à vos œuvres, au Maroc.
Oui.
C'est pas une instance.
Au Maroc, c'est une instance. Chaque ville a une déchéance de relâme, mais qui, dans le rôle, si vous voulez, n'est pas législatif, il est consultatif, et le relève joue un rôle essentiel dans la légitimité. C'est-à-dire, quand il y a un changement de pouvoir, si un roi est mort, ou s'il faut sa succession, ou s'il est malade, les ulama, en tant que consensus de la réflexion des différentes villes du Fus, si vous voulez, se réunissent comme en conclave, et doivent eux-mêmes décider qui doit le succéder. Parce que c'est une source de légitimité, et on appelle la baïa, où on va, et on reconnaît un tel, et on lui accorde la baïa. Il y a eu des problèmes. Donc, a fait en réalité que laisser la main libre à toute une série d'instances qui contrôlent, et ce n'est pas que le problème des multinationales et transnationales, quand on vous dit déréglé, le monde de la communication, le monde de la communication est déréglementé dans un sens, parce qu'on encourage ITT, d'autres sociétés, Electronica, les télécommunications italiennes, Télécom France, etc., à aller dans le privé, mais le problème n'est pas là. C'est qu'après vous avez un quasi-vide juridique, où les normes internationales qui doivent être établies de régulation, qui faisaient avant par l'Union internationale des télécommunications, par l'Union postale, par des organisations de spécialistes, par des comités de gens compétents, ou par des ministères, maintenant se font ad hoc par des accords entre les trois sociétés, et c'est ce qu'on appelle la mondialisation de l'économie. Des gens comme Ricardo Petrella de la CE a très bien écrit là-dessus plus de 2 ou 3 articles dans le monde diplomatique, dans Futurib et ailleurs. Ce n'est plus un problème de libéralisme, de capitalisme, c'est un problème de savoir, dans un système de prise de décision, et si je veux une démocratie, quel est mon degré de participation comme contribuable et quel est mon rôle dans les décisions qui sont prises. J'étais ravi en venant là de lire, par exemple, puisque pour une fois la Suisse va faire un référendum si on va acheter des F-18 ou pas. Je trouve ça merveilleux, parce que quand on a tenu un congrès sur l'avenir, des institutions politiques à Stockholm, il y a presque 10 ans, on voyait très bien qu'on va passer vers une démocratie directe, parce que les moyens de communication, ces révolutions font que vous pouvez à 5% près, par un sondage bien fait, savoir ce que la population pense de Genève, si elle veut que les ponts soient repeints en jaune, en vert ou en orange. C'est comme ça que le marketing marche, à une marge d'erreur de 4-5% qui se raffine chaque fois. Ou alors vous allez au référendum, parce que ceux qui prennent les décisions, les contraintes qu'il y avait avant, comme aux États-Unis, pourquoi le président de la République devait attendre entre son élection et sa prise de pouvoir quelque chose, 2 mois et quelques jours, pour une raison tout à fait élémentaire, c'est qu'on a pris le point le plus loin de Washington aux États-Unis et on a calculé le temps où, si le président est élu du Washington State, combien de jours ça lui demanderait pour arriver en calèche. Et bon, et c'est encore là, c'est-à-dire, et vous avez un président qui est élu la première semaine de novembre, et vous avez tout le mois de novembre, tout le mois de décembre, et il ne prend ses fonctions qu'en janvier. Et vous avez un hiatus, une période incroyable pour la plus grande puissance du monde. Donc, je veux dire, il y a certains concepts, certaines institutions qui sont à être mises en cause. Le concept de droit de l'homme, c'est très beau, il est déjà défini par la déclaration française, contrairement à ce qu'on dit, c'est d'abord le premier étape est celle de Bill of Rights de l'Angleterre, il faut respecter les droits d'auteur. Ce n'est que quelques années après que la France a pris le concept, il y a eu aussi les développements aux États-Unis, et même là ils étaient différents, autant le système anglo-saxon des droits de l'homme met en avance le civil rights, c'est-à-dire le droit de société, le droit du travailleur, le droit de catégorie de gens, donc raisonner en termes socialement structurés, autant, bon, c'est une spécificité de la Révolution française où les droits de l'homme étaient au niveau de l'individu. Et le niveau scandinave est entre les trois. Donc, avec l'évolution du monde, on ne peut pas continuer à croire qu'on va gérer le monde avec des concepts qui remontent à 1789 ou même qui remontent à 1948 lors de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'abord parce que quand cette déclaration était faite, la représentation des pays des tiers-mondes et de leur système de valeurs était non existante, ce qui fait que la déclaration universelle des droits de l'homme est culturellement une déclaration des principes et des normes judéo-chrétiens, qui sont la minorité dans le monde. On ne trouve pas certains concepts bouddhistes, on ne traite pas certains autres concepts, elle n'est pas universelle dans la mesure où elle ne reflète pas la constitution et la diversité du monde lui-même. Chaque société a ses traditions. Et alors là, on utilise le mot universel et on vous l'impose. Et si vous ne l'acceptez pas, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas la manière dont je pense, vous n'êtes pas universel. On s'approprie l'universel par un ethnocentrisme caractérisé qui est à la source de ce que j'appelais la crise nord-sud, qui est un problème de communication culturelle. Et je vais presque dire, je dis que la remise en cause de toutes ces institutions intervient à un moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous voulez, ce dilemme est là, et je parle toujours du Japon. Vous savez, j'ai fait ma thèse de doctorat à presque 40 ans, 30 ans à l'avance, School of Economics, j'avais pris le monde arabe, le monde musulman, et à ce moment-là, j'étais vraiment inquiet par une période dans l'histoire du monde arabe qu'on appelait la période levantinisme. Alors, le levantinisme. Alors, le levantinisme, c'était, vous savez, la révolution, disons, intellectuelle, littéraire. Le monde arabe a commencé avec la reprise de la langue arabe au Liban à travers l'imprimerie. Bon, ben, c'est une chose très bien. C'était surtout des missions qui étaient là, qui ont utilisé cette imprimerie, qui a été d'un très grand bénéfice à deux jours, et personne ne la conteste, et heureusement qu'elle a eu lieu pour l'épanouissement et la propagation du livre ou de ce qui est écrit. Mais à ce moment-là, se posait déjà une forme de crise d'identité, et vous avez des gens dans le monde qui disent, bon, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette culture avant, le monde est en train de se transformer, bon, il venait d'y avoir la dictature, moi, toutes ces traditions et tout cela, moi, je me retrouve beaucoup plus chez l'autre. Vous avez des choses qu'on oublie parce qu'on occulte l'histoire. Vous avez des gens comme Tahar Hussein, le grand écrivain arabe, etc., mais qui est allé faire sa thèse de doctorat à la Sorbonne. Il était aveugle. Il a eu une épouse très charmante qui est rarement dédiée plus que quelqu'un d'autre. Et puis sa thèse de doctorat était l'avenir de la culture égyptienne. Et à ce moment-là, carrément, la thèse est là. Elle est publiée. Il dit, vous savez, nous en Égypte, on n'a rien à faire avec la culture arabe, musulmane. Nous, on remonte au pharaon, on fait enfin, ce que le chat, à un moment, a essayé à faire revivre aux Eurostraïdes. Et puis, d'ailleurs, nous, notre logique, c'est la référence grecque, latine, etc. Donc, nous n'avons rien à faire avec ce monde. Nous allons lâcher, nous rentrons dans le monde occidental. Ben, ce style de pensée, on l'a appelé dans le Nord, à ce moment-là, l'école levantine. C'est-à-dire des gens qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas tout à fait bien dans leur peau. Il y a une forme d'aliénation culturelle, ils sont ni nord ni sud, il y a une forme de bâtardise, et il y a une certaine insécurité, ou alors on se rattrape sur quelque chose. Alors on va vers la francophonie, on va vers M. Kouchner comme sauveur du monde, on va vers le droit d'ingérence, on va vers ce paternalisme vis-à-vis du tiers-monde. Et là, ce phénomène-là avait commencé. Et donc je me suis mis à suivre le Japon. Et je suis dit le Japon très jeune. Et une des choses dont je m'honore le plus, qui n'est pas dans mes CV, c'est que quand l'empereur du Japon, à 75 ans de règne, a donné cette grande décoration, le grand cordon de la croix du Levant, il les a donnés à 7 japonais, à 7 non-japonais, dont j'étais un, et j'étais le seul du tiers-monde, et la moyenne d'âge était de 77 ans. Mais bref, parce que le Japon m'intéressait, parce que je voulais dans ma thèse, dès ma jeunesse, prouver que tout homme a une capacité créatrice et innovatrice. C'est là où on croit ou on ne croit pas, dans l'égalité véritable. Et qu'il n'y a pas de système, qu'il n'y a pas de langage, qu'il n'y a pas de méthode d'expression, qu'il n'y a pas de raisonnement, qu'il n'y a pas de logique, qui n'ait pas un sens et qui ne soit pas viable, opérationnel, à condition qu'on la fasse évoluer, prenant conscience des objectifs qu'on veut atteindre, des moyens dont on dispose, et de trouver une manière conceptuelle de la plager dans une stratégie, dans un système socioculturel. Et j'ai suivi le Japon. J'ai organisé le centenaire de la révolution Meiji en 1968 avec une réunion extraordinaire entre les gens du Nord et du Sud. Et j'ai découvert là, à ce moment-là, que les Japonais avaient un jeu extraordinaire qu'ils jouaient dans les salons intellectuels à partir du début du siècle. Ce qu'ils appellent le Nihon Run. Alors le Nihon veut dire japonais et run, c'est analyse. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se réunissaient dans les salons. Et puis chacun jouait un rôle. Alors, dis-toi, tu vas me dire, tu vas t'imaginer que tu es français. Alors, Comment le français voit le Japon? Qu'est-ce qu'il en pense? Ah, je regarde ce mec qui étudie, il a été en France. Ah, vous savez, pour les Japonais, pour les Français, on est tous ceci, cela, on marche comme ça. Nos femmes ont des pieds tout petits. En fait, c'est le Japon. Toi, ton tour. Tu étais en Angleterre, tu as fait tes études à Oxford. Alors, décris-moi, toi, dans la faute de l'anglais, comment tu vois le Japonais? Et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est des gens qui étaient conscients de leur identité, mais aller plus loin. Et essayer de voir dans le miroir comment les autres le voyaient. Pour que ça ait un autre rétro-effet et pour qu'ils en tiennent compte de comment l'autre les voit. Et les Japonais ont laissé marcher l'Occident à fond, disant c'est des gens avec leur caméra, ils vont, ils vont, ils montent en Suisse et ils font la même chose plus cher parce que leur main-d'œuvre est pas cela et parce qu'ils peuvent travailler 20 heures et en Suisse, nous on a une législation d'un progrès. C'est tout à fait un bouffon, parce qu'il n'y a pas une chose que les Japonais ont fait, qui n'est pas une valeur ajoutée et qui ne démarre pas de leur système de valeur. Rappelle après cette conférence 68, si revenait au monde 71, 72, il y a eu tout un débat des gens qui m'attaquaient parce qu'ils avaient dit que les Japonais ne copiaient pas, ça a fait fureur. Bref. Et maintenant je finis là-dessus. Et bon, j'espère que le débat va apporter un tas d'autres choses que j'avais là que je n'ai pas appris. Le Japon, le NIRA. Le NIRA, c'est le Nippon Institute for Research Advancement, c'est-à-dire cet institut japonais pour l'avancement de la recherche, a mené pendant 6 ans, entre 82 et 88, une étude sur Japan Agenda for the 90s. Alors, c'était de savoir quel était l'ordre du jour pour le Japon, les grands problèmes, une étude entièrement consacrée aux sciences et technologies de pointe, qui associait, je ne sais pas, toutes les grandes firmes, tout le monde. Bon, il y a eu, je crois, une vingtaine de personnes en dehors du Japon qui ont été associées. J'ai eu l'honneur, là aussi, d'en faire partie au niveau, surtout, des aspects des technologies avancées, notamment en informatique, robotique, système d'experts qui m'impassionnent par les implications socioculturelles. Et bref, cette étude est sortie en 88. Elle est comme ça, il n'y a que des tableaux. C'est des matrices. Les nouveaux matériaux, bon, si ceci se passe, il y a le scénario A, on arrivera peut-être à 40% du marché, mais à condition qu'on ait un breakthrough et qu'au-delà de la céramique, on trouve des produits qui résistent à 3500 degrés au lieu de 2800 km. Une analyse purement scientifique avec les possibilités des scénarios, ce que ça impliquait comme investissement, et le contexte international et où se trouvaient les technologies en Union soviétique, en Allemagne, bon, en France. Et ce rapport est comme ça. Et puis il y a trois paris d'introduction de ce rapport, qui est totalement consacré aux technologies de pointe et pour le Japon aux années 90. Et le directeur, Shimo Kobe, le président de cet institut, un homme qui doit faire presque 80 ans aujourd'hui, un chimiste, biologiste, écrit une petite introduction. Et dans cette petite introduction, toute minime, qui passe inaperçue, et qui était rédigée, alors prenez bien la date, en 1988. Je suis très sensible aux droits d'auteur. Dès qu'il y a un concept, je dis bon, on le retrace à quand. Alors voilà ce qu'écrivait ce rapport de recherche sur le programme japonais pour les années 80, et voilà l'introduction. Et je cite mot à mot, bon, c'est ma propre traduction de l'anglais, ici dans un article que j'avais publié. Voilà ce que disait le japonais. En 88, j'insiste, je m'excuse sur, je ne fais pas de la commercialisation, mais c'est très important ce que je dis, 88. Et voilà ce que disait le japonais. Il faut désormais voir le monde différemment. Mettre de côté le vieux préjugé d'un ordre mondial stratifié sous l'empire américain. Chaque mot-là est japonais. Ce n'est ni du Samirami, ni de je ne sais pas quoi. Le nouvel ordre mondial. Alors voilà l'expression. Le nouvel ordre mondial. Jusque-là, on avait parlé du nouvel ordre économique international, du nouvel ordre de la communication, du nouvel ordre humanitaire. Mais à ma connaissance, la première fois, l'expression nouvel ordre mondial tout court est utilisée chez les Japonais. Le nouvel ordre mondial qu'on pourrait appeler l'âge de la diversité des civilisations, là ce concept de diversité à nouveau, repose sur la coexistence de multiples civilisations. Et ils vont plus loin, et c'est là la phrase qui compte pour moi, si l'occidentalisation a fait progresser le monde sur le plan matériel, il n'y a pas toutes, certains avantages, l'avion, certains produits, les vaccins, on a pu éliminer la variole, mais ils vous disent si, ils reconnaissent. Si l'occidentalisation a fait progresser le monde sur le plan matériel, et voilà la phrase, la modernisation du Japon témoigne de la distinction entre modernisation et occidentalisation. C'est-à-dire cette équation qui m'a toujours intrigué chez un tas de gens aminiculturels. Et quand on en a, et c'est là-dessus que je conclurai pourquoi j'ai appelé la période postcoloniale et ce qu'elle signifie pour moi. Là, elle a cette preuve. Je vous donne un dernier exemple. Bon, pour apprécier le monde à sa juste valeur, il est donc nécessaire d'examiner la structure du monde interne du monde multipolaire. Le monde cherche peut-être des façons de développer des civilisations pluralistes dans un monde multipolaire. Ben, le nouvel ordre mondial à la bouche n'est rien d'autre que le contraire. N'oubliez jamais, les gens m'ont dit, tu as beaucoup écrit sur la guerre du Golfe. J'ai écrit sur la guerre du Golfe parce que pour moi, ce n'était ni guerre arabe, ni le Koweït, ni le monde arabe, ni le monde musulman. Le premier article que j'écrivais en septembre disait le confrontation nord-sud, début de l'ère postcoloniale. Et deux semaines plus tard, à Radio France Internationale, dans une émission, j'ai dit, il y aura une guerre. Et pour les raisons suivantes, il n'y a pas que le pétrole et tout ça. C'est-à-dire, c'était un moment de rupture, de changement. Il fallait mettre la main sur certaines choses. Et les Japonais en étaient déjà conscients de la manière dont tu parles. Et Bush a dit une phrase que les gens oublient la première. Il a parlé ni de pétrole, ni de démocratie, ni de défendre le Koweït, ni de droits de l'homme. Il a dit, it is a question of our lifestyle. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Lifestyle. Alors, lifestyle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous les systèmes de valeurs. C'est-à-dire, regarde, nous, on a pris des habitudes. On a notre manière de vivre. On a un déficit de 3 000 milliards de dollars. Nous permettons le luxe chaque année d'avoir un déficit budgétaire qui est entre 400 et 500 milliards de dollars. Ça ne fait rien, plus on a le déficit, plus le dollar monte parce qu'on est sûr d'avoir l'argent des Japonais, des Allemands, des Émirats arabes, des pétrodollars. Et donc je continue, je fais la loi. Je sais qu'économiquement, je ne suis plus une puissance. Je sais que scientifiquement, je suis plus une puissance. Je sais que technologiquement, je suis une plus puissance. Vous donnez l'exemple pourquoi ils sont plus puissants. Cet ordinateur, vous voyez, Toshiba vient de sortir, il est sur le marché, un ordinateur avec un écran plat, parfaitement valable, actif et pas passif, en couleur, avec un million de couleurs. Mais ce projet a été financé conjointement par IBM et Toshiba au Japon. Et quand les Japonais se sont mis à fabriquer, sur 100 fabriqués, il y en avait que 2 valables. On jetait 98. Après, on jetait 90. Après, on jetait 60. Maintenant, on en est à jeter 20. Aucun laboratoire américain, aucune école américaine, aucun ingénieur, aucune fabrique, aucune usine n'est capable de reproduire les conditions dans lesquelles sont faits ces faits. Parce qu'il suffit d'un quart de micron de poussière là où vous travaillez pour que l'écran soit foutu pour le jeter. Parce que dans cet écran-là, chaque point que vous voyez est un petit... condensateur ou un petit transistor ou une puce qui est là, pour un parfois. C'est un travail d'une précision. Bon. Et les Américains ont abandonné le brevet commun à IBM et Toshiba. Mais on les fabrique qu'au Japon parce que les Américains ne sont pas en mesure, ils le reconnaissent eux-mêmes, technologiquement. Et parce qu'ils n'ont pas peut-être le système de valeurs qui lui pousse à cette... phase du détail de la miniaturisation qui est rentré comme un système de valeur. C'est pour ça que j'insiste sur les valeurs. Alors, voilà l'exemple quand j'ai parlé, si vous voulez, de cet aspect culturel. Je suis personnellement extrêmement optimiste sur l'avenir quand j'ai parlé sur la guerre du Golfe. Et j'ai dit dans mon livre qui s'appelle La première guerre civilisationnelle, aussi, si je me permets, les deux concepts que j'ai sortis, celle du postcolonial et de la guerre civilisationnelle. Brièvement, pour moi, c'était le postcolonialisme. Vous avez vécu la période coloniale. Elle est classique, elle est bien décrite depuis que Moon a écrit en 1924 le livre sur l'impérialisme et toutes les écoles qui ont suivi, qu'elles soient marxistes, libérales, on sait plus ou moins ce que veut dire l'impérialisme et le colonialisme. Vous allez, vous prenez des matières premières, vous les exploitez, vous avez votre commerce et ainsi de suite. Et après, on a eu la période qu'on appelle néocoloniale, c'est-à-dire vous êtes allé à une belle station d'eau, d'ailleurs proche de Suisse, que ce soit à Lisbonne ou à Evian, vous signez un accord et puis... 3 minutes après, vous êtes indépendant. Ça y est, on a signé un accord. L'indépendance économique, vous pouvez par une signature dire ça y est, je nationalise le pétrole ou je nationalise le phosphate, tout ce que vous voulez. Mais, c'est la véritable indépendance politique et culturelle, c'est pas un acte qui se produit ipso facto. Et donc, on a vécu la période néocoloniale où on respectait la forme, vous étiez indépendant, vous avez votre compagnie aérienne, vous avez votre drapeau, vous avez votre représentant aux Nations Unies, votre chef d'État se balade dans une grosse voiture, enfin, vous avez toutes les apparences de la souveraineté. Mais en réalité, vous êtes encore plus lié économiquement, militairement, etc., avec l'ancien colonisateur. Mais au moins, on respectait la forme. Il y avait des troupes, elles étaient sous un accord spécial. Le président de la République avait le droit à des gardes spéciales qui étaient là, même si c'était les plus grands tyrans. En même temps, on parlait un langage à la bonne, les droits de l'homme et la démocratie. Mais quand Madagascar a essayé de bouger, les gens qui protégeaient là, ou fait poigner, j'espère qu'il fera moins un procès. Ça fait 3 mois qu'il dirige la Côte d'Ivoire à partir de Paris. Mais bon, c'est très bien parce que c'est ce qui se passe sur le campus. Alors, si vous voulez, ces transformations-là, moi quand j'en parle, en disant, voilà le néocolonial, on l'avait vu. Mais maintenant, c'est encore mieux. Le postcolonial, c'est deux choses. C'est que d'abord, vous avez une puissance qui elle-même, à un moment, a été colonisée. Les États-Unis, même s'ils sont responsables de peut-être le plus grand génocide de l'histoire, c'est-à-dire 12 à 14 à 16 millions d'Indiens, qu'ils ont complètement tués pour avoir ce type de culture, pour pouvoir s'approprier un pays qu'ils ont volé. Même si on appelle ça la découverte, et même si on est en train de célébrer aujourd'hui la manifestation qui s'est passée en 1492. Bon. Alors, maintenant vous avez une ancienne puissance colonisée, qui elle-même devient le colonisateur principal, mais il y a mieux. Pour la colonisation, on avait besoin d'envoyer des troupes. En Algérie, jusqu'à l'indépendance, il y avait 700 000 à 800 000 soldats. Il fallait investir, il fallait voter des budgets spéciaux à l'Assemblée. Il fallait avoir tout un système de renseignement, il fallait. Ben aujourd'hui, rien que ça. Aujourd'hui, non seulement vous allez occuper des pays, vous vous arrangez à que vous soyez invité, et en fin de compte, vous faites un bénéfice. La guerre du Golfe, sur le plan matériel seul, a dû coûter entre 130 et 140 milliards de dollars. Je ne passe pas des dégâts de ce qui s'est passé. Là-dessus, il y a eu un fonds, soi-disant de solidarité, dont la comptabilité n'a pas encore été remise vraiment aux contribuables, c'est-à-dire aux pays arabes, au Japon et à l'Allemagne. Et là-dessus, le minimum qu'on estime, c'est que les États-Unis ont fait un gain de 12 milliards de dollars. Le postcolonialisme, c'est que d'abord vous allez communiquer un pays, vous le prenez, c'est lui qui vous invite, et il finance lui-même sa propre occupation. Et chez nous qui n'avons pas les pétrodollars, nous avons quelque chose d'autre, c'est que ce n'est que maintenant que le colonialisme commence à tirer ses fruits. Parce qu'il y a une première génération qui est maintenant au pouvoir, qui a été formée pendant le colonialisme, et qui sont ce que j'appelle des mercenaires inconscients. Tout le tiers-monde, et notamment toute l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle en Algérie « Esbranza », c'est des porte-paroles d'une certaine conception culturelle française, que ce soit les droits de l'homme, les droits de ceci, les droits de cela, parce que c'est des gens qui sont mal dans leur peau. La preuve, c'est que tu ne peux pas les mettre les pieds chez eux. Ils ont besoin d'y écrire dans Libération, ou dans Le Nouvel Observateur, ou de passer du matin au soir à TV5. Parce qu'on les publie, parce que ce sont des mercenaires qui, inconsciemment, ou auxquels on donne des petits concours, si vous voulez que je sois encore plus précis, qu'on achète d'une manière ou d'une autre. Bon. Alors, ces gens-là sont la première production. Et je finis avec une question du mot, qui est vrai. En 1954, au Maroc, bon, Mohamed V était exilé, peu importe, et le résident général français était en visite à Meknès, une ville où est né Michel Jobert. Et un sage, un gentil de 70, 75 ans, barbe blanche, qui est toujours dans un coin, qui fait cette prière, qui ne bouge jamais, se met un verre, il va voir, et dit, je veux voir le résident général. Je vous assure, c'est une histoire vraie qui m'a été racontée sur place. Qu'est-ce que vous voulez voir le résident général? Je veux voir le résident général. On lui dit, c'est pas un violent, c'est pas un terroriste, c'est un homme, bon, des plus calmes. Il dit, je veux voir le résident général seul. Je n'accepte pas les interprètes d'ici, de cela. Et finalement, il voit le résident général et lui dit, monsieur général, je suis venu vous demander de partir. Quoi? De partir. Mais pourquoi? Je vous assure que ne vous en faites pas. Vous avez produit, vous avez semé ici, pendant un temps à venir, une génération qui va monter, qui va défendre vos intérêts mieux que vous-même. C'est déjà fait. Allez, vous n'avez pas besoin de vos armes, vous avez fait des Français meilleurs. Et c'est vrai. Cette génération qui a 35 ans et plus, et je le vois au niveau de l'université, il y a plus de 25 ans que j'enseigne, et je vois le changement des structures qui a à faire avec les valeurs, c'est d'ailleurs valable en Afrique, le reste de l'Afrique, c'est valable en Amérique latine, c'est valable en Asie, et grâce à la pyramidage, vous avez les gens qui sont en dessous des 35 ans, c'est-à-dire qui, eux, n'ont pas vécu
qui, le jour de l'indépendance, ou bien venait d'être né, ou n'avait que 4 ou 5 ans, et pour lequel vous savez leur dire, vous savez, la résistance, la libération, on a eu tant de héros, moi j'ai fait ceci, comme en France en 68, les jeunes avaient marre de voir les films de la résistance et qu'on leur parle du maquis, et bien vous avez maintenant cette réaction, après 30 années d'indépendance, la génération qui a moins de 30 ans a tout à fait un autre système de valeurs. Et je dis à l'Occident, je suis le dernier des Mohicans, on vivra le dernier Mohican. Parce que moi j'ai passé ma vie, je suis allé à l'âge de 15 ans aux États-Unis, j'ai dû apprendre tout, la démocratie jeffersonienne, j'ai dû apprendre par cœur le Federalist, j'ai dû pouvoir citer Gedwin Liberty ou Gedwin Dex, j'ai dû apprendre la musique américaine en partant du jazz et des blues et comprendre jusqu'à la musique la plus contemporaine et les ballets de Radio City. J'ai dû comprendre même les vins californiens, le langage, la cuisine des États, mais pourquoi ? Je puisse arriver, quand je suis arrivé, quand le Stevenson faisait candidature, j'ai pu faire inclure une petite phrase dans la plateforme du Parti démocratique en 1954 qui mettait en question l'aide du NATO à la France alors qu'elle occupait des pays. Bon. On a fait la même chose au niveau de la France. Le dernier d'entre nous ici qui a fait des études en France vous citera fleuve par fleuve, comté par comté, vous dira ce que sont les spécialités strasbourgeoises, toulousaines, vous parlera de la musique, tout bon. Et on fait la même chose. Je vais dire, j'ai fait 3 ans de russe parce que j'ai appris le russe, j'ai passé 4 ans en Angleterre, j'ai fait ça. Puis on arrive à moi, je dis, mais mince, vous n'allez pas faire un pas dans ma direction. Bon, moi j'avais besoin de faire ça et je crois dans la communication culturelle. Mais la grande rupture, le grand danger dans le problème dans le Sud, c'est que l'arrogance de l'ethnocentrisme occidental, judéo-chrétien, a atteint des degrés intenables. Et les jeunes, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, athées, inca, mayas, tout ce que vous voulez, en ont ras-le-bol. Ils disent, look, fellow, make a step in the other direction. Jusqu'à quand, moi, je vais aller, it takes two to tango. Vous voulez que je danse seul? Moi, j'étais constamment à la recherche, ce n'était que les étudiants que j'ai, qui ont moins de 30 ans, qui font leur DS, qui sont en faculté, même les autres, de médecine, de sciences, de technologie, aller leur donner des labels faciles que leur donnent les mercenaires, qui eux ne peuvent pas s'insérer dans leur milieu, qui les appellent des intégrités fondamentales. Même si c'est vrai, alors, il y a 90% qui sont intégrés. Eh bien, très bien, s'il y a 90% qui sont intégrés, c'est la majorité du pays déterminée au travers d'un bulletin de vote. Et ne me dites pas en appuyant, moi j'arrête la démocratie parce que en arrêtant la démocratie, je sauve la démocratie. Mais quelle logique ! Et que des hommes comme, comment il s'appelle, le grand soi-disant spécialiste du développement qui a sous-développé des blocs Chesson, viennent et me disent clairement, mais c'est ça la victoire, mais quel droit, monsieur Chesson, vous qui vous êtes tout, vous venez là, vous avez succédé à Edgar Faure qui était un vrai défenseur des droits de l'homme, et là on vous a voulu vous mettre dans une case, on vous a mis dans cette arche pour vous occuper des droits de l'homme, mais qu'est-ce que c'est ? Quelle crédibilité vous voulez maintenir ? Cet affolement de ce qui se passe par les médias, mais finalement ça se retourne contre qui ? On a un dicton qui est très facile, qui dit « Celui qui trouve, creuse un trou, tombe dedans. » Celui qui amène un bateau, un bâton, est frappé à l'eau.
De l'intelligence sont mobilisées chez l'auditeur, mais comment on va procéder ? Qu'est-ce que peut-être d'abord on va faire un tour de pure information ? Parce qu'il y a un très haut niveau analytique, conceptuel, donc j'ai peur que peut-être l'un ou l'autre des concepts n'ait pas été compris dans toute sa dimension. Est-ce qu'on fait un tour d'abord de pure information ? Et après, des questions sur le fond, d'objections, etc. Quelqu'un n'a pas compris un segment de l'un ou l'autre des règlements.
Moi, je n'ai pas compris jusqu'à...
De la chance, mais pas
de
tout ça. Je
n'ai compris ce que je n'ai pas compris quelque chose. Et puis, à la fin, vous dites il faut que les Occidentaux s'intéressent à ce qui se passe dans les cultures du pays du tiers-monde. Mais en même temps, vous dites, durant toute votre présentation, que finalement, c'est ici que ça se passe, c'est même technologiquement, c'est-à-dire qu'il y a tellement un écart entre... Mais c'est vrai que vous dites que, bon, l'ensemble de la population ne comprend rien de toute façon, que ce soit J'ai l'impression qu'il y a une espèce de contradiction entre aller vers ce qui se passe.
Non, je comprends votre préoccupation. Je ne parle pas d'aller vers le tiers-monde. Je veux dire la communication culturelle. Ce n'est pas tout simplement m'intéresser et dire je vais joindre Médecins sans frontières, je vais donner 200 francs à l'UNICEF en achetant des cartes. C'est de faire l'effort que font les gens du Sud à comprendre les valeurs du Nord et que le Nord, d'abord, se met en tête que ces valeurs ne sont pas le monopole à travers lequel on va diriger le monde et que la paix passe d'abord par une diversité, une pluralité des cultures. C'est pour ça que j'ai cité le Japon. C'est l'état d'esprit d'abord. L'homme occidental croit avoir ses technologies, croit avoir ses pouvoirs. Maintenant, quand je parlais du fossé, il est dans toutes les sociétés, mais je vais vous donner un chiffre qui va vous surprendre. C'est-à-dire qu'à mes yeux, la grande révolution de la fin du siècle, je ne crois pas dans les dates fatidiques, mais elle est double. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en l'an 2000, la majorité de la population du globe sera rurale et non pas urbaine. Et on sait ce que cela représente, et c'est ce que craignent les pays en voie de développement et la Banque mondiale et tout le monde avec leur programme de démographie, garder les gens rurales, parce que les zones urbaines, c'est là où ça fermente, c'est là où ça bouge, c'est là où on passe une limite de vitesse de 20 km à l'heure à une autoroute où les changements se font à 180 km à l'heure à cause des problèmes de la pauvreté, à cause de ce que vous avez vu comme à Los Angeles. Bon. Et le deuxième phénomène, c'est que dès le début du siècle prochain, le tiers-monde devient majoritaire dans la société de la connaissance. On estime que plus de 55% des cerveaux ayant le niveau du doctorat ou plus seront d'origine du tiers-monde dans moins de 10 ans. Je vais vous donner un autre chiffre pour ne pas encore avoir ce raisonnement, c'est une contradiction. Vous savez, vous, dans le tiers-monde, vous êtes piloté la technologie statistique du ministère du Department of Labor des États-Unis. Je peux vous donner la date, tout si vous la voulez à la fin. Étude de ce qui s'est passé en 90. Sur toutes les personnes qui sont entrées dans ce qu'on appelle une active force, c'est-à-dire des gens qui ont eu des emplois, et dont le niveau de formation dépasse le doctorat, 51% étaient non-American born. Les dernières statistiques de l'association, the American Medical Association, c'est que sur 3 médecins aux États-Unis, les États-Unis n'ont en formé que 2. Vous imaginez l'économie, c'est-à-dire au moins un médecin sur 3 est déjà formé par le tiers-monde aux frais de la princesse de nos pays. À 100, 120, 130 000 dollars, il arrive sur un plateau d'argent, et ainsi de suite. Donc, même là, n'ayez pas l'idée, c'est parce que nous avons aujourd'hui une exode des compétences. Au Maroc, qui est un petit pays, on a 100 000 personnes diplômées qui n'ont pas de travail, mais on a encore des gens qui parlent de la coopération internationale, ou le dernier représentant d'une mission de la Banque mondiale, ou de l'UNICEF, ou même de l'UNESCO, où j'ai été, ou de la FAO, est un petit débile, à côté du dernier des derniers Marocains qui a cité que part, qui n'a pas d'emploi. Et c'est la même chose au Ghana, c'est la même chose en Côte d'Ivoire, parce que nos dirigeants ont un complexe. S'il y a la compétence locale, ils sont finis. Mais un étranger, on l'achète dans le pays, que son rapport, il s'en va. Mais quelqu'un qui est sur place peut vous dire, il y a 10 ans, il y a 5 ans, je vous ai dit, ne construisez pas ce pont comme ça, il tombe, il y a une responsabilité. Alors même cette histoire de la compétence et du savoir, justement, et moi ça me dérange plus, pas quand il y a quelqu'un qui me dit, vous êtes bien un peu, mais c'est un peu. Vous êtes bien un Californien. Le jour où vous aurez les conditions essentielles, qui sont la liberté d'expression, qui sont un minimum de moyens de travail, vous assure que l'exode des compétences n'a rien à faire avec la crème matérielle. J'ai fait la première étude du Brain Drain en 68 avec l'UNITA. La deuxième a été faite par le PIT en 1972. Et toutes les études à ce jour démontrent que la motivation principale, en tous les cas des gens du tiers-monde qui vont ailleurs, c'est d'abord deux choses. C'est l'absence de liberté de s'exprimer. Et la deuxième, c'est de ne pas avoir les moyens minimum indispensables d'un périodique, d'un truc pour entretenir votre connaissance. Et c'est tout. Donc, il y a une attaque de contradiction en apparence. D'abord, quand je dis, vous voyez, le réflexe, vous dites technologie, vous dites, mais donc, le Sud qui va là et le Nord là. Je vous dis, dans moins de 10 ans, la majorité du monde de la connaissance sera dans des cerveaux, dans des personnes qui sont d'origine du tiers-monde. J'étais à Caltech, où j'ai vu le département de robotique dirigé par un Chinois, le département d'informatique et de logiciels dirigé par un Indien. Les deux tiers de tous les logiciels du monde sont rédigés soit par des Indiens, soit par des Iraniens. Et j'ai vu dans un autre laboratoire ce qu'on appelle un WASP, un White Anglo-Saxon Protestant de 22 ans, qui était un jeune étudiant, mais qui balayait pour faire des heures complémentaires pour payer ses études. Il n'y a aucun mal. Là aussi, quand vous
voyez, il y a tendance à dire, technologie, donc c'est l'Occident, non. La technologie principale échappe. Vous savez, pendant la guerre du Golfe, le Japon aurait arrêté pendant 30 jours l'envoi de pièces pour les radars américains, la vulnérabilité de tout le système de défense américain de France. Un mois d'arrêt d'exportation de pièces japonaises très précises pour les radars américains et tout le système de sécurité américain, y compris les Star Wars et les centaines de milliards de l'argent des avancées sont passés.
Donc, la réponse,
vous savez, la prospective, ça c'est fait à laisser quelque chose pour l'avenir, à comprendre dans l'avenir.
Avec la situation de Canada.
Oui, absolument.
Oui, parce qu'il y a la
conférence
nord-américaine qui passe sur
vous,
ça sur
un aspect.
Ou le francophone canadien.
On peut pas être.
Il y a une autre question d'information, excusez-moi. Information. Oui. Réification. Vieux conseil de masse.
La réification, c'est le professeur d'hiver, c'est plus facile que pas pour la France. Dans le cas, je veux dire, qui est vieux jeu qu'on utilisait dans les sciences sociales de réification, c'est-à-dire que quand vous conceptualisez au-delà d'un certain point, vous quittez un peu les réalités et vous montez une forme de structure qui vous satisfait et qui a une logique apparente et qui en réalité fait perdre tout le sens de ce que vous avez cherché. C'est ça ou pas ça ou apporter une autre.
Ça a bien eu, c'est un beau latin. Oui, oui. La chose. Et chez Marx, la réification, mais par le rapport tout à fait terme, la qualité devient un. Parce que là, je ne sais pas l'analogie, elle est trop provocante, je sais bien.
Ah, non, c'est bien, parce que moi aussi, je suis pris dans
la réification, c'est quand la conscience devient chose, quand elle est pétrifiée, et à un moment, comme une chose. Un consommateur genevois moyen, fonction à la publicité, aux besoins artificiels qu'on instaure en lui, à la valeur marchande, etc., etc. Et sa conscience, autrefois était singulière, animée par formuler des valeurs d'usage et revendications singulières, elle est devenue comme une pierre, c'est-à-dire il est aliéné. La réification, c'est la pupille, il est déterminé par des forces extérieures à ça.
J'en parlerai mieux la prochaine fois de ce
qu'on n'ose plus les citer. Je vous donne une page. Bon, quelle question d'information? Oui.
Quelle question qui est de l'abord de la science? Oui. Vous avez parlé au début de l'atteinte à la référentielle. À un certain moment, vous avez parlé de société, de production, de société de savoir. Les questions qui ont repris dans les pays de l'Est, exactement, avec les cerveaux de l'Est qui vont d'une façon ou d'une autre partir vers l'Ouest, qui va donner une grosse concentration de la connaissance pour l'Ouest. Est-ce que vous ne voyez pas pour le Nord de tenir le groupe, le scalp, du but?
Non, je ne me situe pas d'abord dans une situation de compétition. Et puis, il ne faut pas exagérer toute cette histoire médiatique sur les gars qui vont de l'Est avec une bombe atomique sous les bras, etc. Là, il y a vraiment une campagne. Et ce qu'il y a avec les chercheurs, c'est que si un chercheur coûte entre 150 et 200 000 dollars à former, minimum, sa rentabilité n'est opérationnelle si vous opérez avec des unités, disons, de 50 éléments, que quand ce que dans votre chiffre d'affaires ou vos investissements représente 5 fois cette somme annuellement. C'est-à-dire si vous voulez en profiter d'un savant, d'un technicien qui a travaillé je ne sais pas quoi sur les balistiques de l'espace, etc., qui a coûté à peu près 200 000 dollars, il faudrait que pour celui-là, vous créiez un environnement où il y a déjà à peu près 1 million d'investissements en termes de recherche et développement pour qu'au niveau auquel il opère soit rentable. Et le grand problème qu'il y a eu, c'est que n'étant pas capable de faire ça, c'est pour ça que les Américains, les Français, la CE sont venus avec l'idée, regardez, au lieu de les faire venir chez nous, on a déjà notre chômage et on ne peut pas générer toutes ces ressources, allons chez eux où les conditions de travail se font. Alors, les premiers à avoir fait ça, d'ailleurs, c'était des Français qui sont allés en Tchécoslovaquie et ailleurs, et ils ont trouvé que la manière dont opère quelqu'un, je ne sais pas, en biochimie, à quel niveau, au CNRS en France, revient à temps,
et que si on le laisse à Prague dans sa luminosité, il revient. Et le ratio était de quelque chose de 1 à 3 ou 1 à 4. Alors ils disent, pourquoi pas faire des projets conjoints, amener des gens et travailler ensemble en le laissant là, on arrive au même résultat, on travaille ensemble et ça coûte moins. Donc d'abord ce mouvement de personnes, il se fait ou se fait pas, et moi je trouve qu'il est sain. Moi je crois de tout temps, je ne crois pas dans les passeports, je ne crois pas dans les frontières, et je me contredirai avec tout ce que j'ai dit, pour moi ce n'est pas non reçu. Tant mieux, parce qu'il y a toujours des compensations. Quelqu'un de l'Est va aller là, un autre jour ils vont faire, et bien l'Est a un problème. C'est que l'Est a un problème démographique. Et la majorité des pays de l'Est ont un taux de natalité plus ou moins négatif. Les seules régions qui produisent des personnes démographiques, ce sont les républiques musulmanes. Quand vous prenez l'Azerbaïdjan, le Turkestan, le Tadjikistan, qui ont des taux de croissance de 2,8, 2,9, 3,1, quand vous voyez qu'une ville comme Moscou, ne fût-ce qu'à travers ça, a à peu près 600 millions de musulmans, on ne s'en rend pas compte, mais il y a 600 millions de musulmans, 600 millions de musulmans à Moscou. C'est le chiffre donné récemment à l'occasion de la bêtise. 600 000, non, 600 000. Dans l'ensemble du Nouvelle-Union soviétique, c'est à peu près 60 à 70 millions. Mais qui, avant la fin du siècle, qui en 2005, deviendront 120 millions. C'est-à-dire que d'ici 30 ans, vous avez entre l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, le nouveau ensemble qui est constitué, vous allez avoir entre 400 et 500 millions d'habitants, qui est plus que la CE, et qui arrive bientôt. Rien que dans cette région-là. Le nombre de musulmans d'abrés bourgeois, d'Abiché, qui était le président de la Commission internationale des démographes, qui est mort il y a un an, donnez les chiffres. Ces projections sont dans les livres, là, la première guerre civilisationnelle. Vous les trouvez. L'estimation, si vous voulez, c'est important, ça, parce qu'on est entré dans le culturel. Toute la campagne contre l'islam s'est déclenchée en 1985, pour une raison très simple. Le Vatican a sorti une étude en 1985. 86, et qui démontrait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le nombre de musulmans dépassait les catholiques. Et c'est grâce au Vatican qui a fait des études dans plus de 200 pays pendant 4 ou 5 ans, avec quelque chose comme 2000 ou 3000 spécialistes, qu'on a eu les premières véritables statistiques de nombre de musulmans d'après le Vatican. Donc au moins plus qu'un minimum. Et là, le chiffre, et les deux chiffres étaient les suivants, il y avait cette année-là 850 millions de catholiques et 865 millions de musulmans. Les deux, le monde musulman, selon les projections, aujourd'hui est 1,3 milliard. Et les catholiques ne dépassent pas 920 millions. Quand vous faites les projections de Bourgeois-Pichard, en l'an 2040, c'est pas dans beaucoup de temps, en l'an 2040, 40% de la population mondiale sera musulmane. Alors que le pape se déplace 36 000 fois en Afrique, qui n'est, comme vous avez lu hier dans Le Monde, cette armée qui est l'Opus Dei, qu'on trouve tout à fait normal, on ne parle pas d'intégrisme. Il aille se mêler en Pologne de Valsvalita, on se fera très bien. Que le mur de Berlin n'est pas tombé par Radio Free Europe, ni par la CIA, ni par quiconque, mais par les 350 000 protestants qui sont sortis des églises. Et que c'est Valsvalita et le pape qui ont transformé la Pologne. Et que c'est en Bulgarie, quand on est sorti avec des cierges, que ça s'est fait. Bon, là c'est peut-être valable, là c'est, on retourne à l'authenticité et tous les jours prenez time, etc. Comment la religiosité qui se passe, comment on la fêtait pas, comment ces gens-là ont le droit d'exprimer leurs valeurs, etc. Et quand quelqu'un d'autre le fait d'une manière ou d'une autre, ah non, ça c'est des sauvages, ça c'est des qu'on ne peut pas les limiter. Non. Donc ces facteurs culturels, il faut vraiment les voir dans cette dialectique. C'est.
Mais pour M. Hutchinson ?
Oui, merci.
Vous voulez
quelque chose?
Je ne pense pas aujourd'hui. Je suis très heureux que vous soyez là. Je suis tout seul, c'est pas sûr. Moi, il y a une question d'information encore, et après on va en débat sur le fond qui est déjà entamé, mais vous avez une question d'information quand même. Oui.
C'est quelque chose que je n'ai pas bien compris, et j'espère que vous m'expliquez. C'est quand vous avez parlé là de la guerre de la génération qui perd automatiquement le commodité, comme c'est les 900 dollars, et qui est en mieux. Moi je pensais avant que tous ces pays-là qui ont vécu la dépendance, ils sont en train maintenant de se sauver parce que cette génération est en train de finir. Ce n'est pas le fait que cette génération va continuer. C'est une fin qui n'est pas plus.
Non, je crois qu'on parle peut-être de la même chose, mais laissez-moi, peut-être que j'étais trop rapide. Prenons trois générations. Situons-nous en 56. Je prends 56 parce que 56, c'est l'indépendance du Maroc, du Soudan, de la Tunisie et du Ghana. Je prends de l'Afrique, 58, c'est la Guinée. Bon. Les gens qui ont lutté pour l'indépendance, si vous prenez les Kwame Nkrumah, les Julius Nyerere, les Sékou Touré, les Mohamed V et ainsi de suite, ben, à cette période-là, avec 35-40 ans, cette génération est pratiquement hors du pouvoir, elle est soit enterrée, où elle a pris sa retraite, sauf si on s'appelle à M. Boudiaf et qu'on va vous rechercher après consultation avec les stratèges français pour vous apporter sauver la vie. Mais autrement, sauf exception, et sauf à nouveau dans le cas d'Algérie, comme qui suivent l'exemple russe où la moyenne des gens qu'on nomme ont plus de 70 ans, ces gens-là sont des vestiges qui en réalité ne représentent plus rien. Mais il y a eu, disons, ma génération. Moi, à l'âge de l'indépendance, j'avais 21, 22 ans. J'étais en prison à l'âge de 15 ans pour des questions de droits de l'homme. J'ai eu à combattre en pleine session des Nations Unies en 1958, prix Nobel des droits de l'homme, où je défendais je défendais dans les pactes, les covenants, je défendais le concept d'autodétermination comme un droit. Et M. Cassin et M. Jouy me disaient non, M. Elmanjra, c'est un principe, ce n'est pas un droit. Bon, bref. Cette génération, la mienne, et celle que je crois qui était dans la transition, qui est responsable de ce que je dis. Parce qu'elle a pris le pouvoir réellement, elle s'est distanciée de la population, d'abord par la corruption et la facilité avec laquelle elle s'est enrichie. Elle a un problème de conscience parce qu'elle a contredit, et elle en est consciente, tous les objectifs pour lesquels les gens sont morts et indépendants. Et elle a compris que sa survie passe par une alliance rationnelle qui intéresse à la fois l'ancien colonisateur et vous-même. Vous avez qu'à voir les nouvelles stratégies européennes depuis qu'il n'y a plus l'Est, tout est dirigé vers la Méditerranée et vers l'Afrique. Et si quelqu'un vient toucher à M. Ben Ali, avant que vous le sachiez, les parachutistes seront là-bas. Et si quelqu'un vient toucher aux généraux algériens qui ont fait ce qu'ils ont fait en Algérie après des consultations dans l'Institut de haute stratégie à l'école militaire à Paris, vous verrez ce qui arrivera. Donc je veux dire qu'il y a une sorte de trahison d'une génération qui a plus de 35 ans, qui a eu le pouvoir entre ses mains, et qui n'a à se blâmer qu'elle-même, qui est celle qui est responsable du manque de justice, qui est celle qui est responsable de la corruption, qui est celle qui est responsable des excès que cela provoque, en réaction. Et les gens de moins de 35 ans ont compris, ça ne veut pas dire qu'ils font un groupe homogène, attention, heureusement, même entre eux, il y a différentes opinions. Ceux-là ne travailleront pas le service colonial. Mais ceux qui restent maintenant sont...